Gabin.
Dans ce journal, on parlera d'un nouveau service de l'administration des législatives, bien sûr, avec le dernier débat d'entre-deux-tours et ce record en kite, 356 mètres de haut. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréo. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence par la création de ce nouveau service.
Oui, le pays prévoit de fusionner la direction de la modernisation et de la réforme de l'administration avec celle des ressources humaines. Ce projet doit être présenté le 17 juillet en Conseil des ministres. Il devrait être finalisé début août et opérationnel à la fin du troisième trimestre. Il s'agit sans doute d'une des premières opérations du fameux plan de restructuration des services que la ministre de la fonction publique Vanina Krolla évoquait sur notre antenne à la fin du mois de mai. On écoute les explications de Caroline Perdry.
Une fusion qui ne va pas sans quelques grincements de dents, surtout du côté de la DGRH, la plus grosse des deux entités. Les agents se plaignaient ces derniers mois du manque de visibilité sur la mise en cohérence des missions des deux directions et ils n'avaient guère été convaincus par les explications données il y a un mois lors d'un comité technique paritaire. Si l'on en juge par le courrier adressé dès le lendemain à la ministre en charge, Vanina Krolla, dénonçant l'absence de travaux approfondis sur les définitions des missions et des activités et sur les procédures. Depuis, des ateliers de co-construction ont été menés. Ils se poursuivront sur les deux prochaines semaines. Le projet de fusion doit être présenté en Conseil des ministres le 17 juillet. Un appel à candidature pour le poste du chef de ce nouveau service doit être lancé d'ici là et l'arrêté d'organisation devrait être prêt pour début août.
Ce super service sera logé dans le nouveau bâtiment administratif dont la construction avance sur l'avenue Pouvana à Opa. Il devrait réunir entre 110 et 120 agents. Le gouvernement espère donc qu'il soit opérationnel à la fin du mois de septembre.
On ouvre une page politique avec les législatives, nous sommes à J-3 du second tour.
Mériana Red Arbelot du Tavigny et Pascal Haïti-Floss du Hamouitato étaient sur nos antennes en direct hier. 500 voix seulement séparent les deux candidates sur le premier tour. Elles sont donc toutes les deux à la chasse aux abstentionnistes. Dossier prioritaire pour la candidate Tavigny, le nucléaire et la relance de sa commission d'enquête sur les conséquences des essais. Cette commission avait commencé ses auditions mais tout s'est arrêté avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Dommage pour la candidate Bleu Ciel qui tablait sur ses conclusions pour faire de nouvelles propositions. Un timing qui devait tomber parfaitement, explique-t-elle.
Quand elle commençait le 30 avril pour se finir le 29 octobre, ça tombait pile pour le début du PLF, donc de l'étude du projet de loi de finances 2025 de la métropole. Mais là, avec la dissolution, ça va être un peu compliqué. Donc il y a des choses qui vont être faites pour le PLF, notamment la prorogation des délais qui arrivent à échéance en fin 2024, qui vont être prorogés jusqu'en 2030.
Alors la prorogation, pourquoi pas pour Pascal Haïti, mais la commission, pourquoi faire? Il ne faut pas créer pour créer, a lancé la vice-présidente du Hamouitahira. Dossier prioritaire pour elle, le coût de la vie. Selon elle, c'est ce sujet et celui de l'emploi qui intéresse vraiment les Polynésiens. Alors comment retrouver du pouvoir d'achat? Elle donne un exemple.
Nous avions reçu à l'Assemblée la délégation de Calédonie demandant est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord pour porter ce projet au niveau de l'État pour que le coût du fret maritime soit soutenu par l'État pendant bien sûr une certaine période, le temps que le pays retrouve un peu ses couleurs. Ça, je pense que c'est un dossier où on peut se mettre d'accord avec les pays d'outre-mer, ça nous concerne tous.
Où vont-elles siéger si elles sont élues? La candidate autonomiste est très claire concernant le Rassemblement national. C'est un parti d'extrême droite et pas question d'y siéger. Ce sera le centre ou la droite. Mais elle espère tout de même compter sur les voix de ses électeurs, notamment ceux qui ont voté pour Naomi Mihura, qui était soutenue par le RN. Ce sont des autonomistes, après tout. Du côté de Mériana Red Arbelot, elle siégera dans un groupe de gauche, peu importe qui sera en majorité.
Le regard parisien a changé sur les parlementaires polynésiens, notamment les députés, parce que nous montions des dossiers, nous argumentions et nous ne demandions pas des chèques en blanc, nous argumentions nos demandes et ça s'est toujours très bien passé.
Et entre un gouvernement macroniste et un gouvernement lepéniste, ça ne fera pas de différence pour vous?
Alors, évidemment si, sur l'idéologie, sur quelques axes de stratégie politique qui seront complètement à l'opposé de ce que nous préconisons, puisque nous défendons les valeurs républicaines et quelquefois, il faut avouer que l'extrême droite, pour nous, ne respecte pas ces valeurs-là.
Enfin, concernant le clivage autonomie-indépendance, un élément clé de l'union Hamouitato dans cette élection, pour eux, il faut se battre contre l'indépendance. Ce n'est pas l'enjeu, tranche Mériana Red Arbelot. Pourtant, l'ancien député Tématei Le Gaïc avait bien porté une proposition de résolution à l'Assemblée nationale sur le droit à l'autodétermination de Maori Nui, co-signée par Mériana Red Arbelot. Il s'agissait, dit-elle, de mettre le sujet de la décolonisation sur la table, mais elle assure qu'elle respectera les décisions de l'Assemblée de Polynésie dont elle porte à la voix, tout en provoquant son adversaire, car elle rappelle que Gaston Flos avait qualifié l'autonomie de pantalon vieux et troué. Le vieux lion soutient désormais un statut de pays associé à la France. Alors quid de l'autonomie ? Pascal Haïti n'y voit pas de contradiction.
Nous sommes au bout de nos compétences. Nous sommes prêts. Regardez un peu dans la loi. Aujourd'hui, dans la loi organique, notre statut, on fixe le nombre de ministres. Mais enfin, nous ne sommes quand même pas des enfants. Ce n'est pas à eux à venir nous fixer le nombre de ministres.
Donc on est prêts.
C'est un recul. Bien sûr qu'il faut nous laisser cette liberté. Je peux en citer d'autres,
vers
si
une
vous
souveraineté
voulez.
Associée ou vers une autonomie, mais différente.
Associée. Il faut que l'État nous accompagne dans notre développement.
Vous pouvez retrouver l'intégralité des débats sur notre site. Le second tour, c'est samedi. Seuls les électeurs de la deuxième et troisième circonscription sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et jusqu'à 19 ou 20h selon les communes.
On parle éducation avec les premiers effets des nouveaux rythmes scolaires.
Oui, qualifié de véritable casse-tête par de nombreux parents d'élèves, cette réforme semble provoquer un mouvement du public vers le privé. Ces nouveaux rythmes scolaires présentés officiellement à la fin juin ne semblent pas convenir à tout le monde. Il s'agissait pour le pays d'aligner la réglementation locale avec celle de l'Hexagone et de passer des 27 heures de cours à 24. Après consultation, vote et réunion, ces nouveaux horaires diffèrent suivant les communes. Dans certaines, l'école se termine à midi, dans d'autres, il y a classe certaines après-midi. D'autres encore ont un rythme plus classique. Face à ces changements, les écoles du privé enregistrent un taux d'inscription plus important que d'habitude. Comme l'explique la directrice de l'école de la Mission, où une cinquantaine de demandes d'inscription d'enfants venant du public ont été reçues.
C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce chiffre-là, effectivement. Depuis l'annonce, on a beaucoup d'appels de parents du public nous demandant des informations sur les horaires. Je me limite quand même en termes d'effectifs, je n'accueille pas tout le monde. C'est pour ça que du coup, toutes les dernières inscriptions, les appels que l'on a, ma secrétaire en tout cas, les rabat en fait vers l'établissement qui se trouve juste à côté de chez nous, à savoir Saint-Jean-Baptiste.
Alors ce n'est pas le même engouement pour toutes les zones. À Saint-Hilaire par exemple, pas de hausse particulière. Mais l'école se prépare à une possible augmentation dans les semaines à venir. Sur la côte Est, une petite augmentation des inscriptions est signalée. Mais attention, les écoles privées ne prennent pas tout le monde. Les places sont limitées. On écoute la directrice de l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse.
Cela dépend des écoles, mais effectivement nous avons un quota. Une moyenne, on va dire, de 26-27 par classe. Et ça se remplit vite. Et au-delà de ça, on sera amené à refuser des inscriptions. Nous avons voulu orienter depuis toujours notre travail sur la qualité de l'enseignement.
Des propos recueillis par Veitiare Pereire.
En bref, plusieurs nouvelles côté santé.
Oui, avec d'abord cette précision de Romina Ma. On vous annonçait son départ de la direction de la CPS hier. Elle a souhaité préciser que son contrat ne prévoyait pas d'indemnité de départ et qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'en demander. Un parachute doré qui est toujours possible selon les textes de la CPS. Et qu'au ministère, on espère voir annulé par de nouvelles dispositions à prendre.